en séance. Une retransmission proposée par Canal Academy.
Le patient numérique personnalisé semble de moins en moins éloigné de la science-fiction. D'ici peu, ce fameux patient numérique permettra de mieux comprendre le fonctionnement du corps humain grâce à l'informatique et à l'imagerie médicale. Il permettra de mieux quantifier une pathologie et de prédire son évolution, mais également de simuler précisément l'action d'une thérapie pour optimiser ses effets. Vers un patient numérique personnalisé, c'est le thème de la conférence de Nicolas Ayache donnée en mai 2009 à l'Académie des sciences. Nicolas Ayache est directeur de recherche à l'INRIA, Institut National de Recherche en Informatique et Automatique. Il est le lauréat du Grand Prix EADS 2006 et du Prix Microsoft 2008 de la Royal Society et de l'Académie des Sciences. Tout de suite, Nicolas Ayache.
Je vais essayer de vous présenter aujourd'hui nos travaux en informatique et imagerie médicale autour de ce patient numérique personnalisé. Alors, je ne peux pas commencer cet exposé sans honorer la mémoire de Gilles Kahn, qui fut, comme vous le savez, le premier informaticien élu dans cette académie et qui, à la tête de l'INRIA, a soutenu de façon visionnaire le rapprochement de l'informatique et des sciences du vivant en général, et bien sûr plus particulièrement le domaine dont je vais parler aujourd'hui. Alors je voudrais aussi remercier, puisque je suis au début, tous les collaborateurs qui m'ont accompagné dans ces travaux, notamment au sein de mon équipe, et puis également nos partenaires extérieurs, académiques, cliniques et industriels. Et je me suis permis de présenter une petite diapositive de leur visage, une image réalisée lors d'un récent séminaire à la montagne, au cours duquel non seulement nous avons beaucoup parlé d'imagerie médicale, mais nous l'avons également expérimenté. Alors, mon exposé débute en 1632 autour de ce célèbre tableau de Rembrandt, La leçon d'anatomie, parce que, d'une certaine manière, le message qu'il y a dans ce tableau, c'est un message qu'on va retrouver tout au long de l'exposé, c'est le fait qu'il ne suffit pas d'observer l'intérieur du corps humain pour comprendre son fonctionnement. Ce qu'explique le docteur Tulpe, c'est le mécanisme par lequel les doigts de la main sont animés par des muscles qui ne sont en fait ni sur les doigts ni sur la main, mais éloignés sur l'avant-bras. Et on peut imaginer qu'aujourd'hui, pour expliquer ce mécanisme, eh bien, le docteur Tulpe pourrait projeter des modèles numériques. Il pourrait projeter des modèles numériques qui expliquent la géométrie de l'anatomie, la physique des forces qui s'appliquent sur les tendons lorsque les muscles de l'avant-bras se contractent, les couples, enfin, qui agissent sur les articulations. Alors, cette main, on la retrouve à la fin du 19e siècle, en 1895, c'est bien sûr une des premières radiographies du corps humain qui permet donc d'observer in vivo, de façon non invasive, l'intérieur du corps humain. C'est aussi le premier prix Nobel de physique attribué donc à Wilhelm Röntgen. Et dans le siècle qui suit, eh bien, un grand nombre de prix Nobel sont attribués aussi bien en physique, en chimie, qu'en médecine, et participent au progrès du développement de l'imagerie médicale. Le XXe siècle, c'est vraiment l'explosion de cette imagerie. Ici, les quatre grandes modalités que nous connaissons qui sont utilisées en clinique, la tomodensitométrie par rayon X ou scanner X, l'imagerie par résonance magnétique ou l'IRM, l'imagerie de médecine nucléaire, ici une imagerie de tomographie par émission de positons, et puis l'imagerie ultrasonore ou échographie. Alors ces images, elles contiennent un grand nombre d'informations. Elles sont tridimensionnelles, vous l'avez dit. Elles mesurent les propriétés physiques ou fonctionnelles en chaque point d'un élément de volume. Et puis, non seulement donc elles sont tridimensionnelles, mais elles peuvent être multiparamétriques ou multiséquences, on dit. Par exemple, dans le domaine de l'imagerie par résonance magnétique, en jouant sur les temps de relaxation T1 et T2, on peut produire des images avec des contrastes différents entre les différents tissus. En injectant un produit paramagnétique, par exemple du gadolinium, on peut révéler le réseau vasculaire, c'est l'angiographie. On peut également, et je vais beaucoup utiliser, vous allez le voir, cette imagerie qu'on appelle IRM de diffusion, qui permet de mesurer localement le libre parcours des molécules d'eau et donc révéler des directions privilégiées qui sont liées, par exemple, aux principaux faisceaux de fibres. Et puis, on peut également, en exploitant les propriétés paramagnétiques de l'oxyhémoglobine, révéler avec l'IRM fonctionnel des régions actives dans le cerveau. Alors, vous l'avez également mentionné, ces images peuvent même être en quatre dimensions. Si on rajoute la dimension temporelle, c'est notamment intéressant lorsque on examine des organes dynamiques, comme le cœur, comme on le voit ici. Alors, il existe une multitude d'autres images médicales. Certaines sont des modalités d'imagerie émergentes. J'en cite quelques-unes ici. Nous avons par exemple l'imagerie IRM spectroscopique qui va permettre de mesurer des propriétés biochimiques localement dans les tissus. La magnétoencéphalographie, l'électroencéphalographie qui vont mesurer des champs magnétiques ou des champs électriques dans le cerveau. L'élastographie qui va permettre en IRM ou en ultrason de mesurer des propriétés mécaniques des tissus. L'imagerie microscopique confocale, in vivo, qui permet d'une certaine manière d'introduire un microscope à l'intérieur du corps humain pour acquérir des images avec une résolution du micron. J'y reviendrai à la fin de cet exposé. Et puis encore d'autres modalités d'imagerie, l'OCT, l'imagerie terahertz, etc. Donc aujourd'hui, si on fait un petit bilan de l'imagerie médicale, on se rend compte que très souvent, on est confronté à beaucoup d'informations, de nombreuses modalités d'imagerie in vivo, qui fournissent donc des informations anatomiques et fonctionnelles, avec des résolutions à la fois spatiales et temporelles qui ne cessent d'augmenter. Ces images, on l'a vu, elles ont de grandes dimensions, beaucoup de paramètres. Il y a de plus le fait que très souvent on a maintenant accès à des grandes bases de données sur Internet relatives à une pathologie ou à un organe, et puis également le fait que l'imagerie devient de plus en plus interventionnelle, c'est-à-dire que le médecin doit prendre des décisions pendant l'intervention à partir d'images pré- et per-opératoires. Donc la conclusion, c'est qu'il y a la quantité d'informations est trop grande pour être exploité de façon optimale sans l'aide de l'informatique. Et c'est finalement la raison pour laquelle, au cours des 30 dernières années, de très nombreux travaux se sont penchés sur l'extraction à partir des images, par des méthodes informatiques, de mesures quantitatives, objectives, pour guider le diagnostic à partir de fusion d'images multimodales. Et puis également, c'est un peu plus nouveau, la construction à partir des images médicales d'un modèle du patient pour planifier ou simuler une thérapie, voire la contrôler, la guider, voire évaluer ses effets a posteriori. Alors je voudrais juste donner quatre rapides illustrations de travaux que nous avons réalisés avec des partenaires, donc ici avec l'école de médecine de Harvard. Et vous l'évoquiez, Monsieur le Président, la construction de cartes spatiales et temporelles de lésions de sclérose en plaques à partir d'images IRM acquises espacées dans le temps sur des patients. Un deuxième exemple des travaux menés en collaboration avec la Pitié-Salpêtrière sur la construction d'atlas spécifiques des noyaux gris centraux du cerveau, pour reprojeter cet atlas sur des images de patients parkinsoniens afin de guider de façon plus précise l'insertion d'électrodes pour de la stimulation profonde. Un troisième exemple, une collaboration avec l'IRCAD à Strasbourg, où ici on projette des modèles des organes, des lésions, des vaisseaux, directement sur le patient pour faire ce qu'on appelle de la réalité augmentée, c'est-à-dire une vue qui permet d'aider le chirurgien à introduire une aiguille pour une ablation radiofréquence de tumeur. Et enfin, le dernier exemple dans lequel on va plus loin que des modélisations géométriques, puisqu'on introduit une dimension biomécanique pour, c'est ce qu'on appelle la réalité virtuelle, à partir des images préopératoires du patient, construire une représentation à la fois géométrique et biomécanique avec laquelle on peut interagir. On peut simuler des interactions, il y a un retour d'effort qui permet de sentir ces objets virtuels et on peut également donc les découper et on peut s'exercer donc à un certain nombre de gestes. Alors, ces quelques exemples, ils préfigurent finalement ce que va être le patient numérique du XXIe siècle. Et finalement, cette diapositive, elle est vraiment centrale, je pense, dans cet exposé. On a sur la droite des modèles numériques du vivant, dont on va voir qu'ils peuvent être de plus en plus sophistiqués. Ils sont simulés sur l'ordinateur, donc on peut dire in silico. Et sur la gauche, nous avons ces images médicales et ces signaux biomédicaux qui sont mesurés in vivo sur un patient spécifique. Donc ce qui est en rouge est générique, ce qui est en vert est spécifique. Et un des points essentiels, c'est ce qu'on appelle la personnalisation, c'est-à-dire on utilise les mesures spécifiques sur un patient pour rendre spécifiques ces modèles numériques du vivant. Et dès qu'on a un modèle numérique personnalisé d'un patient, eh bien, on peut faire plusieurs choses. On peut le reprojeter sur les observations et le modèle nous donne des informations plus précises, quantitatives sur notre patient. Donc, ce sont des outils d'aide au diagnostic. On peut aussi utiliser le modèle personnalisé pour simuler une évolution, l'évolution d'une pathologie dans le cadre de la prévention. Et puis, bien sûr, on peut utiliser le modèle personnalisé pour planifier et simuler une thérapie. Et donc, c'est ce que je voudrais illustrer dans la suite de cet exposé, en montrant que ces modèles numériques du vivant, eh bien, leur sophistication, elle vient de l'emboîtement de différents niveaux de modélisation, géométriques, statistiques, physiques, chimiques. Nous verrons qu'on peut même introduire des contraintes physiologiques au niveau d'un organe, et ceci à différentes échelles. Et donc, dans la suite de cet exposé, je vais à travers trois exemples, mesure de la variabilité du cortex, modélisation de croissance de tumeurs, enfin modélisation de la fonction cardiaque. Je vais illustrer ce patient numérique personnalisé en essayant de faire ressortir le rôle transverse de ces modèles informatiques dont nous allons voir que d'une certaine manière, ils s'affranchissent des frontières entre les modalités d'imagerie, entre les organes, les pathologies, ou les disciplines médicales. Alors, le premier exemple, mesure de la variabilité structurelle du cortex. Eh bien, voilà, j'ai extrait ici quatre images, quatre reconstructions du cortex de patients, d'une grande base de données qui est à UCLA, qui contient 700 images IRM haute résolution de contrôle et de patients. Et bien que toutes ces images, tous ces cortex soient différents, on voit quand même des similitudes entre ces structures. Et donc, les questions qu'on voudrait poser, c'est existe-t-il une structure moyenne? Peut-on mesurer une variabilité autour de cette moyenne? Peut-on détecter des variations anormales par rapport à cette moyenne? Alors, ces questions, ce sont les questions que pose une sous-discipline, si vous voulez, de l'analyse des images médicales, qui s'appelle Computational Anatomy en anglais, qu'on peut traduire par anatomie algorithmique ou computationnelle, et où l'objectif, c'est vraiment, à partir des images médicales et des modèles informatiques, de modéliser et d'analyser la variabilité de l'anatomie humaine. Alors, pour faire cela, eh bien, une méthode, disons, centrale, consiste à extraire dans la base de données d'images des primitives géométriques de différentes natures, à les mettre en correspondance par des transformations, dans une classe de transformations qu'on se donne, puis à estimer des distributions de probabilité, à la fois sur les primitives géométriques et sur les transformations. Alors c'est un problème difficile, d'abord parce que cette extraction de primitives et leur mise en correspondance se heurte souvent au bruit présent dans les images, à la combinatoire de la mise en correspondance. Et puis, d'un point de vue mathématique, parce qu'on est amené à faire des statistiques sur des variétés qui ne sont pas des espaces vectoriels. Et c'est la raison pour laquelle, dans notre équipe, mais dans d'autres équipes également, nous avons développé des outils mathématiques pour calculer de façon rigoureuse sur ces variétés anatomiques, pour définir, par exemple, entre ces primitives, des métriques adaptées pour calculer des géodésiques qui restent dans la variété, pour calculer des espérances de fraîcher, des covariances rigoureuses. Alors, non seulement nous avons travaillé avec d'autres sur le développement des outils mathématiques, mais également sur les algorithmes permettant de calculer ces quantités de façon efficace sur des objets qui sont par nature discrets, puisqu'ils sont extraits des images médicales. Alors, juste une petite parenthèse d'une diapositive avant de revenir à notre variabilité du cortex. Si vous voulez, dans ce contexte, beaucoup de travaux ont été menés sur ce qu'on appelle le calcul sur les tenseurs. Alors, les tenseurs, ce sont des matrices définies positives qui nous intéressent beaucoup parce qu'on les retrouve dans cet IRM de diffusion dont j'ai parlé précédemment. Et donc, l'image du cerveau que l'on voit juste sous le gros ellipsoïde, eh bien, elle est remplie de ces petits ellipsoïdes qui décrivent ces tenseurs. Et on a besoin, pour traiter ces images, de faire des opérations mathématiques, de filtrage, de faire des opérations de suivi, donc c'est de la tractographie pour extraire par exemple des faisceaux de fibres, et on est amené à définir des métriques spécifiques qui permettent de faire ces calculs de manière rigoureuse. Donc je donne juste deux exemples de ces métriques ici. Alors, je reviens sur notre problème de mesure de la variabilité donc des structures corticales. Donc, l'approche que nous avons suivie en collaboration avec le LONI à UCLA, eh bien, c'est d'exploiter des lignes caractéristiques qui sont des lignes au fond des sillons. On en définit 72 par sujet ou patient sur une base de données donc, de 700 images. Alors ces lignes, on sait, elles ont été à l'époque extraites de façon manuelle. On sait aujourd'hui les extraire de façon automatique avec des outils de géométrie différentielle. Et grâce à des travaux récents du CEA-SHFJ, on sait même les étiqueter de façon automatique. C'est ce qu'on voit sur la droite de la diapositive. Alors après une normalisation affine dans la base de données de l'ensemble des images de cerveau, on voit ici, après la mise en correspondance de l'ensemble de ces lignes sur un sous-ensemble de 100 sujets, le calcul le long de ces lignes, en chaque point de ces lignes, d'une petite matrice de covariance qui est représentée ici en couleur. Lorsqu'on a des couleurs rouges, ce sont des régions qui présentent une grande variabilité. Lorsqu'on a des couleurs bleues, c'est une petite variabilité. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que cette variabilité, elle est en fait très inhomogène. Il y a des régions qui sont très peu variables et des régions qui sont très variables. Et grâce aux outils mathématiques que j'ai évoqués précédemment sur le calcul des tenseurs, on peut rendre cette information éparse, qui a été calculée sur des primitives géométriques, on peut la rendre continue sur l'ensemble du cortex et retrouver des informations sur la variabilité du cortex qui sont bien connues des neuroanatomistes, par exemple une faible variabilité autour du sillon central ou du gyrus supérieur frontal, et une grande variabilité dans des régions du cerveau dont le développement est plus récent et qui sont très latéralisées, comme les régions correspondant au langage. Alors l'intérêt, bien sûr, ce n'est pas juste de retrouver des informations qu'on connaissait, mais c'est le fait que ces informations, on les obtient maintenant de façon quantitative. On va pouvoir d'ailleurs exploiter cette information quantitative, on va le voir. Mais en plus, cette information, on peut maintenant la calculer sur des bases de données spécialisées et sur des bases de données aussi grandes qu'on le souhaite. Alors, les perspectives médicales de ces travaux, eh bien, c'est d'une part de pouvoir réaliser des analyses de groupe, on va le voir, de mieux guider la superposition des atlas et de mieux reconstruire à partir de données incomplètes. Alors, analyse de groupe, ici un exemple où on a comparé cette variabilité entre 40 contrôles et 43 patients avec un syndrome de Williams et où on a pu mesurer de façon quantitative la différence de gyrification entre les deux structures corticales. Des résultats récents ont été présentés récemment par le SHFJ sur les anomalies de structure de certains sillons chez l'adolescent autiste ou chez de jeunes schizophrènes qui montrent qu'on peut exploiter avec l'informatique donc, le lien entre géométrie et pathologie. Alors, le deuxième exemple, donc, je mentionnais l'ajustement d'Atlas en radiothérapie. Ici, une collaboration avec le Centre Antoine Lacassagne et l'entreprise Dosisoft pour exploiter, donc superposer un atlas qui va guider la planification en radiothérapie. Et on montre que cet atlas, si on a des contraintes sur la variabilité des différentes régions du cerveau, eh bien on le superpose de façon plus précise, plus robuste, si vous voulez, que si on n'a pas cette information sur la variabilité. Et enfin, un dernier exemple, une collaboration avec l'hôpital Sainte-Justine à Montréal, où ici nous avons modélisé des colonnes vertébrales de patients scoliotiques, une grande base de données de plusieurs centaines de patients. Et la variété sur laquelle on travaille, ce sont en fait les déplacements rigides pour passer d'une vertèbre à la suivante. Une colonne vertébrale est décrite par une succession de transformations rigides. Ce sont des variétés de dimension, c'est une variété de dimension 6, sur laquelle nous avons pu montrer que grâce à l'analyse des modes principaux de déformation sur cette variété, non seulement on pouvait reconstruire plus précisément les colonnes vertébrales à partir de seulement deux projections, mais on pouvait examiner ce que vous voyez sur la droite, c'est les quatre premiers modes de déformation qui sont remarquablement corrélés avec les indices cliniques qu'utilisent les médecins pour caractériser les scolioses dans cet hôpital. Voilà, donc sur ce première illustration, géométrie et statistique, il reste bien sûr de nombreux défis à réaliser au XXIe siècle, notamment celui auquel nous nous attelons actuellement, c'est de mesurer la variabilité de l'évolution anatomique. Donc pas les anatomies à un instant donné, mais les anatomies par exemple au moment de la croissance du cerveau chez l'enfant, ou bien lors de l'évolution due au vieillissement. Donc ça pose des problèmes particuliers de géométrie et de statistique. Et puis, j'y reviendrai à la fin de cet exposé, on se rend compte que un des défis également qui est posé par la construction de représentations moyennes pour décrire des atlas numériques, eh bien on peut concevoir des atlas d'une manière totalement différente avec l'informatique. Au lieu de moyenner les images, on peut imaginer les conserver toutes pour, à un moment donné, lorsqu'on a l'image d'un patient, aller chercher non pas une image moyenne, mais l'image la plus proche dans une base de données. Et j'illustrerai ceci à la fin de cet exposé. Voilà, donc ce premier exemple nous a montré l'exploitation des images médicales avec des outils essentiellement géométriques et statistiques. Alors, dans le deuxième exemple, je souhaiterais parler de croissance tumorale et montrer à nouveau des modèles géométriques, statistiques, mais également physiques, voire physiopathologiques, appliqués aux images médicales. Alors, ce que nous voyons, ce sont deux images IRM d'un patient, atteint d'un glioblastome, et nous observons dans ces images acquises à 6 mois d'intervalle l'évolution de ce gliome très agressif. Et donc les questions auxquelles nous souhaiterions qu'une modélisation réponde, c'est: peut-on caractériser de façon quantitative l'évolution passée? Peut-on prédire avec le modèle la progression future? Et puis à l'instant présent, peut-on utiliser le modèle pour délimiter l'extension réelle de la tumeur au-delà de la frontière visible? Car on sait très bien que dans des images macroscopiques comme l'IRM, eh bien, il y a une extension au-delà de la frontière visible. Et donc, l'objectif final, bien sûr, c'est de personnaliser le diagnostic et la thérapie de façon plus précise grâce à la modélisation. Alors, la croissance tumorale, c'est un phénomène extrêmement complexe. Il y a trois grandes phases, une phase de croissance avasculaire qui reste généralement invisible pendant une très longue durée, puis une phase d'angiogénèse et enfin une phase de croissance vasculaire dans laquelle l'évolution de la tumeur devient visible. C'est cette phase à laquelle nous nous intéressons car nous voulons faire des modèles confrontés à des observations. Et donc c'est la phase de croissance vasculaire qui est étudiée ici. Alors, nous avions proposé, il y a quelques années, un modèle numérique de croissance qui donc emboîte les différents modèles que j'ai mentionnés précédemment. Un premier modèle géométrique, et on peut dire statistique, puisque on décrit pour un patient donné la géométrie des structures à l'intérieur de la tête, la matière blanche, la matière grise, le liquide céphalo-rachidien, le crâne, la faux, en projetant un atlas sur ce patient. On utilise également l'imagerie de diffusion qu'on voit sur la droite pour révéler les principaux faisceaux de fibres de matière blanche, on les voit ici en trois dimensions, qui vont jouer un rôle important dans la modélisation de l'infiltration des cellules tumorales. Donc ça, c'est la phase de modélisation géométrique. Alors, au-dessus de ce modèle géométrique, on construit un modèle biomécanique pour rendre compte de la déformation du cerveau au cours de la croissance de la tumeur. Alors, puisqu'on est en petite déformation, ce modèle est élastique linéaire, il est hétérogène, anisotrope, et donc il est construit à partir du modèle géométrique précédent avec un maillage qui permet de faire des calculs par éléments finis. Enfin, le dernier niveau de modélisation, eh bien, c'est la croissance de la tumeur elle-même. Et on utilise une équation ici macroscopique, donc on considère C comme étant la densité tumorale, si vous voulez, dans un élément de volume, et son évolution est guidée par une équation de réaction-diffusion. Alors je montre cette équation parce qu'on va retrouver une équation un peu similaire tout à l'heure dans l'imagerie cardiaque. Et dans cette équation, si vous regardez la première partie de l'équation, on a donc l'évolution temporelle de la densité tumorale, qui est guidée par une partie diffusion, c'est le premier terme à droite, dans lequel c'est l'équation de la chaleur, mais avec un tenseur grand D, qui est un tenseur qui, c'est une matrice 3-3, qui est liée à l'imagerie de diffusion, donc quelque chose qu'on peut mesurer dans l'image pour privilégier la prolifération dans la direction des fibres de matière blanche. La deuxième partie de l'équation, c'est la multiplication cellulaire avec une loi logistique, d'abord une prolifération exponentielle jusqu'à atteindre une asymptote liée à la densité maximale de cellules tumorales que l'on peut avoir dans un élément de volume. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ce modèle qui est construit sur le modèle géométrique précédent est également couplé avec le modèle biomécanique en introduisant une pression qui est liée à la densité de cellules tumorales et qui va permettre de rendre compte des déformations des tissus du parenchyme cérébral. Alors, on initialise par exemple ce modèle à un instant donné, au mois de mars. On initialise la densité de cellules tumorales avec le médecin. Et puis, on fait évoluer le modèle, c'est ce qu'on voit ici. On a une croissance privilégiée de la tumeur dans la direction des fibres de matière blanche. Et puis, des déformations que vous apercevez peut-être, les petites flèches qu'on voit sur le maillage, c'est le calcul des déformations, et on voit les déformations des ventricules. Alors, ce qui est intéressant, c'est que les paramètres du modèle peuvent être ajustés pour reproduire, bien que le modèle soit relativement simple, la complexité des contours qu'on observe 6 mois plus tard sur ce patient. Et puis, on peut reproduire les déformations avec une précision de quelques millimètres par rapport à ce qui est effectivement observé sur ce patient. Alors, pour personnaliser de manière automatique un tel modèle, on est confronté à un problème, c'est qu'on doit inverser un modèle qui nous prédit une densité de cellules tumorales, alors qu'on ne peut pas observer des densités de cellules tumorales. Ce qu'on observe dans les images, c'est l'évolution d'un front. Et donc, pour inverser ce modèle, nous avons mis en place des solutions itératives dans lesquelles on remplace le problème initial par un problème de propagation de front. Alors, il existe des algorithmes très rapides pour simuler un très grand nombre de propagations de front et pour faire évoluer les paramètres jusqu'à avoir une personnalisation qui corresponde à ce qu'on observe. Alors, juste très brièvement, 2 exemples de personnalisation. Ici, donc, un patient avec un gliome de haut grade, le modèle est personnalisé à partir de 2 instants, le jour 1 et 21. Et à partir de cette personnalisation, on peut laisser évoluer le modèle avec les paramètres qui sont indiqués en bas de la diapositive pour prédire ce qu'on observe 40 jours plus tard avec une bonne précision. Et le dernier exemple, qui est plus intéressant parce que c'est sur un gliome de Bagrad, donc un gliome qui évolue beaucoup plus doucement, on a pu personnaliser le modèle à partir de 3 instants, mesurés pendant 210 jours, et on peut ensuite laisser évoluer ce modèle pendant 180 jours et obtenir là aussi une prédiction relativement bonne de l'évolution de cette tumeur. Enfin, le modèle à l'instant présent permet de prédire la distribution des cellules tumorales au-delà de ce qui est visible dans l'image, et donc, à terme, de personnaliser les marges de sécurité qui sont utilisées, par exemple, en radiothérapie, et qui, au lieu d'être des marges constantes, comme c'est le cas actuellement, seront à terme des marges prenant en compte eh bien, les directions privilégiées des fibres de matière blanche qu'on peut mesurer avec l'imagerie de diffusion. Et ceci est d'autant plus intéressant lorsqu'on a accès à des outils de radiothérapie très précis, comme par exemple ceux fournis par un cyberknife, comme celui qui est présenté sur cette diapositive. Alors il reste de nombreux défis sur ce sujet, notamment la prise en compte de l'inhomogénéité des tumeurs. Et l'IRM spectroscopique que j'ai évoqué dans l'introduction est un moyen de rajouter une information locale à l'intérieur de la tumeur, la prise en compte de la vasculature, la prise en compte de la thérapie entre deux examens, et puis probablement le couplage de ces images macroscopiques avec des images microscopiques que je montrerai à la fin de cet exposé et qui devraient permettre de construire des modèles numériques multi-échelles plus précis de l'évolution des tumeurs. Alors le dernier exemple, c'est la modélisation de la fonction cardiaque. Alors, cela fait maintenant une dizaine d'années que nous travaillons avec de nombreux partenaires à la construction d'un modèle numérique personnalisé du cœur. C'est bien sûr un sujet très important en termes de santé publique, puisque nous le savons, les maladies cardiovasculaires représentent simplement dans l'Union européenne 2 millions de décès par an et un coût évalué à 190 milliards d'euros. Et la construction d'un modèle électromécanique du cœur a pour objectif de mieux analyser des pathologies à la fois électriques et mécaniques, et également de les simuler, et cela à partir des images cardiaques et de signaux d'électrophysiologie comme l'électrocardiogramme. Alors le premier niveau de modélisation, comme dans les exemples précédents, c'est un niveau géométrique et statistique dans lequel nous avons exploité en collaboration avec le NIH, à la fois l'IRM anatomique, mais à nouveau l'IRM de diffusion, pour construire des modèles moyens des ventricules cardiaques et surtout des fibres cardiaques, qui jouent un rôle bien sûr très important dans la contraction mécanique, mais également dans la modélisation de l'activité électrique. L'activité électrique est très anisotrope et suit de façon privilégiée la direction des fibres cardiaques. Donc ça, c'est le premier niveau de modélisation, c'est la modélisation géométrique des ventricules. Alors le deuxième niveau, c'est un niveau de modélisation électrique. Alors je rentre un tout petit peu dans les détails parce que pour comprendre certaines des pathologies que je vais vous montrer, il faut se rappeler que nous avons dans le cœur un pacemaker naturel qui est le nœud sinusal dans l'oreillette droite, qui induit la dépolarisation des deux oreillettes. Puis au moment où la dépolarisation atteint le nœud auriculo-ventriculaire, le signal électrique est transmis de façon très rapide via ce qu'on appelle le faisceau de His à des terminaisons de Purkinje qui tapissent les deux ventricules et qui permettent la dépolarisation synchrone des deux ventricules. Alors, dans certaines pathologies, nous le verrons tout à l'heure, ce faisceau de His, le faisceau rouge, peut être coupé, par exemple à gauche, nous verrons, et dans ce cas-là, cela entraîne une dépolarisation asynchrone des deux ventricules, et donc la nécessité de resynchroniser ces deux ventricules. Alors, la modélisation maintenant informatique, elle peut se faire à différents niveaux. De nombreux auteurs ont travaillé sur la modélisation à l'échelle cellulaire, avec des automates cellulaires, pour décrire les canaux ioniques qui produisent la dépolarisation. Nous nous sommes mis à une échelle intermédiaire dans lesquelles, avec des équations à nouveau de réaction-diffusion, comme celle que vous voyez en bas à gauche de la diapositive, nous modélisons l'aspect propagation d'un front de dépolarisation avec l'évolution de ce qu'on appelle le potentiel d'action transmembranaire dans les tissus cardiaques. Alors, ces équations sont très connues, Fitzhugh-Nagumo, Aliyev-Panfilov, qui est représenté ici dans le cadre en bas à gauche, et puis finalement, les résultats que je vous présenterai sont avec un modèle plus récent de Mitchell Schaeffer, qui présente certains avantages. Alors, on voit ici la simulation de la dépolarisation des tissus cardiaques sur un modèle tridimensionnel. Et bien sûr, pas de contraction, puisqu'il manque le dernier niveau de modélisation, qui est le niveau mécanique, et qui est bien sûr couplé avec l'étage électrique. Et là, il y a un grand nombre de modèles qui est proposé dans la littérature, et nous utilisons un modèle introduit par Michel Sorine et son équipe à l'INRIA, qui est un modèle qui est macroscopique, mais qui s'appuie sur une analyse multi-échelle, depuis les moteurs ATP à l'échelle nanoscopique jusqu'à l'échelle de l'organe. Alors, je vous montre juste ces équations qui sont des équations aux dérivées partielles, simplement pour vous montrer que dans ces équations, il y a une variable en rouge qui est le potentiel d'action du niveau précédent, c'est le niveau électrique, et que ce potentiel d'action, eh bien, il contrôle la contraction des fibres dans la direction des fibres à travers ces EDP. Alors, le cœur est un matériau contractile non linéaire, viscoélastique, anisotrope, incompressible. C'est pour ça que ces équations sont un peu plus compliquées que les précédentes. Et lorsqu'on met ensemble les différents niveaux de modélisation, eh bien, on peut reproduire la contraction des deux ventricules. La couleur ici représente l'évolution électrique du potentiel d'action entre moins 80 millivolts et plus 20 millivolts. Et si on a pris en compte des contraintes globales physiologiques, notamment le fait que lorsque les valves sont fermées, eh bien les contractions ou la relaxation des ventricules doit être isovolumique, on obtient ce mouvement caractéristique du cœur, et notamment ce mouvement de torsion qui est dû à la géométrie des fibres cardiaques qui sont présentes dans ce modèle. Alors, ce modèle est bien que relativement simple et suffisamment réaliste pour extraire un certain nombre de paramètres physiologiques sur un mouvement ralenti. On voit bien la dépolarisation des deux ventricules et puis le calcul, par exemple, du volume du ventricule gauche qui permet de calculer la fraction d'éjection ou bien des mesures de pression dans le ventricule ou la pression aortique. Alors, est-ce que ce modèle peut être personnalisé ? Alors, c'est un problème difficile. Nous avons obtenu récemment des premiers résultats en confrontant en fait, ces simulations in silico avec des mesures cliniques d'imagerie et d'électrophysiologie et à nouveau avec des algorithmes itératifs permettant de recaler la simulation, si vous voulez, avec l'observation. Alors, les premières expériences de validation que nous avons faites sont un peu invasives, comme vous pouvez le voir sur un cœur excisé. Donc le cœur sur la gauche, l'excitation, la dépolarisation est provoquée au bout de l'électrode que vous apercevez ici en bas à gauche du cœur. Et sur la droite, ce sont des images qui révèlent, grâce à l'injection d'un produit de contraste, l'activité électrique des tissus. Et donc, nous avons montré qu'il était possible, avec des modèles de propagation de front, pas très éloignés de ceux que j'ai présentés sur la progression des tumeurs cérébrales, eh bien de recaler les modèles électriques du cœur virtuel, si vous voulez, et notamment les paramètres de conductivité apparente et de durée du potentiel d'action, qui jouent un rôle essentiel dans le modèle utilisé. Alors bien sûr, pour des applications cliniques, on utilise des techniques beaucoup moins invasives, notamment en insérant, donc c'est dans le cadre du projet européen EUART, en insérant à Londres un panier d'électrodes par voie endovasculaire à l'intérieur des ventricules pour avoir des mesures électriques très riches de façon mini-invasive. Et puis on dispose également des mesures d'imagerie par résonance magnétique marquées pour avoir le mouvement des tissus. Alors on peut personnaliser les paramètres mécaniques du modèle en confrontant la simulation avec les observations. C'est un problème d'assimilation de données qui est bien connu des météorologues. Et voilà un exemple de personnalisation sur un sujet sain, des paramètres électriques et mécaniques, et qui permet donc d'extraire des courbes physiologiques. Alors la courbe en bas à droite, c'est une courbe de pression-volume, en rouge le ventricule gauche, en bleu le ventricule droit. Et alors je fais un zoom sur ces courbes parce qu'on voit que la personnalisation sur un patient avec ce qu'on appelle une surcharge du ventricule droit, il y a une régurgitation au niveau de ce ventricule, eh bien on voit des courbes très différentes qui sont dues à la régurgitation et à la dilatation excessive de ce ventricule. Alors, l'intérêt de personnaliser ces modèles, c'est qu'on peut simuler des thérapies. Alors, dans le cadre d'un autre projet européen qui s'appelle IOART, piloté cette fois-ci par Siemens, eh bien, on voit qu'on peut simuler l'opération, la correction de la régurgitation, donc la simulation de la chirurgie des valves, et puis également la correction, la réduction en fait de la taille du ventricule droit, et ceci pour prédire une amélioration de la fraction d'éjection, donc de la qualité du fonctionnement de la pompe cardiaque, si vous voulez. Et on peut prédire également le déplacement de la courbe pression-volume dans une région beaucoup plus normale du graphe pour le ventricule droit. Alors un autre exemple, c'est un exemple de désynchronisation cardiaque sur une patiente donc suivie à Londres, au St Thomas Hospital. Donc ici, on a une pathologie, on a une désynchronisation entre le ventricule gauche et le ventricule droit. C'est la pathologie que j'évoquais tout à l'heure, le bloc de branche gauche. On personnalise la géométrie du cœur à partir des images médicales. On personnalise également la présence de cicatrices qui sont révélées par l'imagerie avec injection d'un produit de contraste et qui sont dues à un problème d'ischémie dans ces régions. On introduit bien sûr la direction des fibres cardiaques, on personnalise l'activité électrique et on peut maintenant immerger le modèle numérique du cœur dans l'image pour personnaliser les paramètres de contraction des fibres. Et donc on a ici un modèle virtuel qui reproduit à la fois les mesures électrophysiologiques et les mesures images observées sur cette patiente. Alors ce qui est très intéressant, c'est qu'on peut maintenant simuler une thérapie, et notamment simuler la pose d'un pacemaker virtuel, si vous voulez, en introduisant ici trois électrodes dans le ventricule gauche, au niveau des sinus coronaires et dans le ventricule. Eh bien on peut resynchroniser la contraction du ventricule droit et du ventricule gauche. Et ce qui est intéressant sur cette patiente, c'est qu'on a à la fois des mesures avant l'intervention, et notamment un paramètre très intéressant pour les médecins, qui est la variation de pression au cours du temps, qui, on le voit, avait des valeurs assez faibles avant l'intervention, et qui, après l'intervention, ce paramètre est nettement amélioré, et il a pu être vérifié, il a pu être mesuré en post-opératoire, et on voit qu'on a une bonne correspondance entre la prédiction et la réalité. Alors, dernier exemple, sur ce modèle personnalisé, on peut aussi simuler le risque de tachycardie ventriculaire en simulant, là où vous voyez le petit point blanc, une stimulation alors très rapprochée qui, en modifiant la durée de la période de réfraction, eh bien, crée justement sur cette patiente, à cause des cicatrices importantes sur le ventricule, eh bien, ces courants de réentrée qui entraînent donc une tachycardie qui peut se transformer en fibrillation et donc entraîner la mort subite. Et donc, la décision thérapeutique qui peut être prise ici, c'est une ablation radiofréquence, c'est la région grisée qu'on voit ici, qu'on peut personnaliser pour s'assurer qu'on n'a plus de tachycardie, et l'implantation d'un pacemaker avec un défibrillateur pour éviter donc ce risque. Alors bien sûr, les perspectives médicales sont importantes, aussi bien pour le diagnostic que pour la simulation de thérapie. Je l'ai montré pour donc la chirurgie, l'ablation radiofréquence ou la resynchronisation cardiaque. Il reste bien sûr de nombreux défis à résoudre, notamment la prise en compte des coronaires, par exemple, pour l'apport énergétique au modèle numérique, la prise en compte de l'électrocardiogramme et son inversion au lieu d'avoir recours à des mesures un peu invasives d'électrophysiologie à l'intérieur des ventricules, et puis bien sûr la prise en compte de façon beaucoup plus fine de toute la partie mécanique des fluides à l'intérieur des ventricules, auprès des valves, des produits d'interface fluide-structure extrêmement complexes. Alors tous ces sujets, nous en débattrons dans un mois à Nice, puisque nous organisons une conférence sur ces sujets juste en face de la Méditerranée du 3 au 5 juin. Alors s'il me reste 5 minutes pour terminer, je voudrais revenir sur cette imagerie microscopique in vivo qui a été inventée par une petite entreprise française qui est à Paris, Monakea Technologies, dont le fondateur est Sacha Loiseau, et qui permet, en utilisant un laser et une fibre optique très fine, d'acquérir des images avec une résolution du micron, et donc d'avoir accès à l'architecture cellulaire, ici sur le petit animal, mais depuis quelques temps en clinique. On voit l'appareil sur la gauche et on voit ici une procédure endoscopique pendant laquelle le médecin introduit dans le canal opérateur de l'endoscope, qui normalement sert aux biopsies, c'est-à-dire à extraire un morceau de tissu qu'on amène sous le microscope, et bien là, il introduit la fibre optique et on a directement une image de résolution microscopique des tissus, ici de la muqueuse gastro-œsophagienne. Alors, un autre exemple en endoscopie pulmonaire, exactement le même principe, on utilise le canal opérateur pour introduire donc cette fibre optique et acquérir, c'était la première fois qu'on acquérait in vivo des images des alvéoles pulmonaires et c'était la première fois qu'on voyait l'activité des macrophages à l'intérieur de ces alvéoles. Alors ce type d'imagerie ouvre des perspectives extraordinaires et également des nouveaux problèmes. Notamment, le gastro-entérologue ici se retrouve dans le siège de l'anatomopathologiste d'une certaine manière. Et il doit apprendre à interpréter donc des nouvelles images, à les classer et donc à définir une nouvelle taxinomie. Par exemple, les trois premières colonnes de ce tableau sont des images de polypes du côlon sain, donc ce sont des images bénignes, et les trois dernières, eh bien, ce sont des images de polypes du côlon néoplasique, c'est-à-dire pathologique, et donc il faut apprendre à interpréter ces nouvelles images. Alors là encore, l'analyse, l'informatique, le traitement d'images peut apporter une aide considérable, et notamment avec cette notion d'atlas intelligent dont je parlais tout à l'heure, où on cherche à fournir aux médecins, à partir d'une grande base de données d'images annotées, chaque fois qu'il y a une requête, eh bien, on fournit les images les plus proches dans la base de données avec leurs annotations, avec leur diagnostic. Ici, une image bénigne, et on fournit des images bénignes. Un deuxième exemple, une autre image bénigne, on fournit des images de même nature. Une image pathologique, on fournit des images pathologiques. Et donc, on peut, d'une certaine manière, réinventer ici la notion d'atlas, d'atlas numérique. Enfin, le dernier exemple, eh bien, si on veut que ces images de résolution microscopique soient comparées avec des images macroscopiques, eh bien, il faut élargir le champ de vue. Et là encore, l'analyse d'images offre des possibilités extraordinaires pour faire cela, puisqu'on voit ici des outils qui ont été développés pour tirer profit de la redondance qui existe entre deux images successives lorsque l'on déplace la sonde à la surface d'un tissu, pour construire une mosaïque d'images dont le champ de vue, si vous voulez, est beaucoup plus large que les images originales. Donc bien sûr, les applications médicales, eh bien, c'est ce qu'on appelle les biopsies optiques, hein, donc des observations microscopiques directement sur les tissus du patient, et sans avoir à extraire un morceau de tissu et à l'envoyer donc sous le microscope. Voilà, donc il est temps de conclure cette présentation. J'espère qu'à travers ces quelques exemples, j'ai réussi à vous montrer le rôle central, essentiel de l'informatique pour construire ce patient numérique personnalisé en confrontant donc des images médicales avec des modèles du vivant, et ceci pour assister la médecine numérique du XXIe siècle. Je vous remercie.
C'était Nicolas Ayage, directeur de recherche à l'INRIA, Institut National de Recherche en Informatique et Automatique. Il s'exprimait sur le patient numérique personnalisé au cours d'une séance de l'Académie des sciences. C'était en mai 2009 à l'Institut de France. Restez à l'écoute de nos émissions et téléchargez les séances de l'Académie des sciences sur le site Canal Académie. Elles sont en libre écoute et libre téléchargement. Vous les trouverez dans l'onglet Émissions en séance, rubrique Académie des sciences. Merci de votre écoute et à bientôt pour de prochaines retransmissions.